prenons le texte dans sa linéarité, il est introduit de façon classique, extrait de façon indéfinie. Un enfant disparu après un raid d'Indiens, on dit que les Indiens l'avaient enlevé avec une référence pronominale typique. Ses parents le cherchèrent, le référent à travers un pronom personnel et repris sans être déformé, il est repris intégralement par le pronom, une anaphore fidèle. Des années plus tard, un soldat qui venait de l'intérieur leur parla d'un Indien qui, aux yeux couleur de ciel, qui pouvait bien être leur fils. Donc on a un deuxième personnage qui arrive dans l'histoire. C'est un Indien aux yeux couleur de ciel, dont l'identité est incertaine. Mais peut-être que cet autre est le premier. Simplement, on a deux personnages, un enfant et un Indien. Et la question du texte, en fait, c'est de savoir si les deux sont le même ou pas. Du moins, c'est la question narrative du premier paragraphe. C'est ce que le premier paragraphe va résoudre, en apparence, en termes d'identité. Alors, regardez la suite du texte, c'est absolument génial. Un Indien aux yeux couleur de ciel qui pouvait bien être leur fils. Ils le rencontrèrent enfin. Ce que les parents rencontrent, c'est pas leur fils, c'est un Indien aux yeux couleur de ciel qui pourrait bien être leur fils. C'est-à-dire, ils rencontrent le et l'anaphore incertaine de ces deux êtres, l'enfant et l'Indien, bon, dont l'identité n'est pas résolue. Le pronom personnel est parfait pour ça, ce qui ne permet pas de coller sur une identité ou l'autre. Donc c'est impeccable. Ils crurent le reconnaître, alors là en revanche, ils crurent le reconnaître, fait basculer le pronom vers l'enfant, vers leur enfant. Ils crurent le reconnaître. Cet Indien serait donc bien le fils. Mais alors là, le texte, lui, le texte va devoir trancher dans la phrase suivante pour reprendre. Après le reconnu par les parents, c'est intéressant, voilà la source d'un point de vue, les parents croient reconnaître leur fils, est-ce que le narrateur va prendre en charge la proposition du point de vue des parents? Coup de génie, me semble-t-il, l'homme, marqué par le désert, la voix narrative ne tranche pas. Elle monte d'un degré dans la détermination, elle prend la catégorie supérieure qui permet d'englober les deux. L'enfant, alors l'homme dit que quelque chose d'important. L'enfant est devenu un homme. On ne sait pas du tout combien de temps s'est écoulé, mais il est passé de l'enfance à l'état d'homme, l'homme. Et l'homme marqué par le désert, l'homme peut être, puisque on est dans un texte postérieur à la conférence de Valladolid, les Indiens sont des hommes, donc l'Indien peut être référencié comme homme. Bien sûr, avant, quand on n'était pas sûr que les Indiens soient des hommes, on n'aurait pas pu faire cette référence. Bon, donc là, l'homme a le gros avantage de renvoyer aux deux d'une façon très, très évidente. L'homme marqué par le désert, alors tous les pronoms « il » que vous avez ensuite renvoient à cet incertain, cet homme qui recouvre les deux identités. Il regarda, il courut, il plongea. Et alors, il plongea la main dans la hotte enfumée et sortit le petit couteau à manche de corne qu'il avait caché là lorsqu'il était enfant. Et lorsqu'il était enfant, transforme le il homme à identité incertaine en identité certaine. Cet Indien aux yeux d'azur est bien le fils perdu de la phrase numéro 2. D'où d'ailleurs la fin, ses parents pleurèrent parce qu'ils avaient retrouvé leur... Alors là, Kaiwa traduit leur enfant. C'est incroyable, c'est Hiro, il le traduit enfant, c'est-à-dire il leur fait tomber en enfance, quoi. Ils avaient retrouvé leur enfant. C'est vrai que c'est un truc génial d'ailleurs, quand j'ai fait les premières traductions et corrections de ce texte, j'ai gardé ça, enfant, j'ai pas fait attention. Hiro, on peut tenter de traduire enfant, mais ici c'est bien plus intéressant, c'est-à-dire ce qu'ils retrouvent c'est leur fils qui est devenu homme, sur lequel le temps a passé, et ils ne retrouvent pas leur enfant, ils retrouvent leur fils, homme. Mais après tout, pourquoi pas mettre enfant? Kaiwa a le droit de mettre enfant, peut-être. Mais il ne peut pas à cause de ce qui va suivre. Justement, s'ils avaient retrouvé leur enfant, la suite ne serait pas possible. Ils auraient bien retrouvé l'origine du temps, celui qu'ils avaient perdu un certain état du temps, et non pas celui qui maintenant est là, un point modifié du temps. On va revenir là-dessus dans une seconde. Alors j'attire votre attention sur le début du deuxième paragraphe, où ce souvenir fut peut-être suivi par d'autres, mais l'Indien ne pouvait vivre entre quatre murs. Ça c'est absolument génial, c'est-à-dire qu'il retrouve son identité d'Indien, et c'est cet Indien-là, cette autre identité, qui fait qu'il partit, l'Indien, retrouver son désert. Donc c'est bien que l'identité a été reprise, et le texte rebascule sur cette autre identité. Alors c'est ce qui est intéressant, c'est exactement ça le problème. C'est ce problème de l'identité. Alors je dis c'est l'identité narrative, si on prend Ricoeur, l'identité narrative et l'identité dans le temps. Ce qui se passe dans ce texte, entre ces identités, c'est une histoire de situation, de l'être dans le temps, ce qui me paraît être un aspect fondamental de la thèse de Ricoeur. Alors, je vais essayer de le gloser, non pas avec l'aide systématique de Ricoeur, mais en citant Borges, on va pouvoir avancer assez vite. À propos, juste avant de passer à ce point, je vous ai mis des citations qui sont amusantes et intéressantes. Vous avez vu la citation 5, peut-être, à propos de ce texte. La citation 5, « Nous disons la plante a poussé. Nous ne voulons pas dire par là qu'une plante petite est remplacée par une plante plus grande. Nous voulons dire que cette plante s'est transformée en quelque chose de différent. » Autrement dit, c'est ça qui est intéressant, la citation 5, c'est en haut de la page 6. Autrement dit, c'est l'idée de la permanence éphémère. Cette idée de la permanence éphémère, c'est un scandale logique extrêmement intéressant, mais ça c'est une expression typique de Borges. Dans cette plante qui a poussé, en fait c'est la réflexion de Ricoeur sur l'identité, hein, sur ipséité, idem, c'est exactement ça. Le même n'est plus le même, quoi. La plante a poussé. En fait, c'est à mon avis ce que le texte va dire. Je vous en ai donné une autre que je trouve intéressante. Il n'est pas nécessaire pour continuer à être ce que je suis, que je me souvienne par exemple que j'ai vécu à Palerme, à Drogué, à Genève, en Espagne. Je sens bien en même temps que je ne suis pas la même personne qui habita dans ces endroits, que je suis autre. C'est le problème que nous ne pourrons jamais résoudre, le problème de notre identité changeante. Alors, dans le livre de Sable, il y a une première nouvelle absolument fascinante où Borges rencontre Borges. Un jour au bord du fleuve, je crois que c'est à Londres que ça se passe, au bord de la Tamise, il me semble. Et il rencontre Borges qui lui-même est au bord d'un autre fleuve. Et Borges jeune, et puis ils parlent tous les deux avec un gros problème. Comment est-ce possible? Et c'est tout à coup cette rencontre au bord du fleuve, c'est pas un hasard, on va revenir là-dessus. Donc ce qui m'intéresse juste, c'est cette idée de la permanence éphémère et l'identité changeante qui est vraiment au cœur de la réflexion générale de Borges, et qu'à mon avis la question du référent évolutif, cet enfant indien de notre texte met en scène. Alors j'en viens au dernier point, la fable sur le temps, sur la mémoire, sur l'identité narrative. Je vous ai d'abord donné une petite citation de Ricoeur tiré de l'article référencié tout à l'heure, le petit article « Ce que je cherche à faire depuis 30 ans », c'est un titre un peu trop beau. « Mon hypothèse de base, dit Ricoeur, est la suivante, citation 7. Le caractère commun de l'expérience humaine qui est marqué, articulé, clarifié par l'acte de raconter, sous toutes ses formes, c'est son caractère temporel. Tout ce qu'on raconte arrive dans le temps, prend du temps, se déroule temporairement. Et ce qui se déroule dans le temps peut être raconté. » Peut-être tout processus temporel n'est-il reconnu comme tel que dans la mesure où il est raconté. Donc mettre le temps... En fait, il y a deux choses à mon avis dans les thèses de Ricoeur. C'est la mise au centre de la question du récit, du caractère temporel des choses. Et deuxième point, c'est la question de l'identité dans le temps. D'où le livre qui suit les trois volumes sur le récit, qui est soi-même comme un autre, qui est la réflexion sur cette identité dans le temps. Si on ne prend pas ces deux aspects, avec la mémoire qui va jouer le rôle d'articulateur, vous savez que la façon d'écrire de Ricoeur est assez fascinante. Hein. Il écrit ses livres, il arrive au troisième tome de Temps et Récits, et puis il dit « j'ai oublié quelque chose hein, ». Pour ma théorie du récit, c'est la question de l'identité narrative, c'est absolument génial. Et après, soi-même comme un autre, « j'ai oublié quelque chose », c'est la question de la mémoire. C'est absolument génial, c'est-à-dire que sa réflexion est littéralement comme ça. C'est-à-dire, une fois qu'il aboutit à la somme des trois volumes sur le récit, on pourrait dire « ça y est, il y a une somme sur le récit ». Pas du tout. Il manque encore quelque chose, soi-même comme un autre, et il manque la réflexion sur la mémoire, l'oubli. Et c'est ça, en fait, la théorie du récit de Ricoeur. C'est 5 volumes énormes. C'est bien ça qui va faire une théorie d'ensemble. Alors j'aime bien cette idée. Effectivement, on ne peut pas arrêter le récit à la seule question du temps. On est obligé d'introduire la question de l'identité narrative, et introduisant l'identité de l'être dans le temps, se pose la question de la mémoire. Et du coup, notre texte devient une véritable métafable sur le récit, sur la question de la mémoire et du temps. Le couteau retrouvé, c'est bien ça. Hein, bon. Alors, vérifions avec toute une série d'observations de Borges. Alors, il y en a une très belle sur la lecture, enfin moi je la trouve une belle définition de la lecture. Qu'est-ce qu'un livre si nous ne l'ouvrons pas ? C'est une chose bien connue, et c'est ce qui fait que Raphaël Barnier a tiré Borges du côté de la théorie de la lecture. de façon assez systématique. C'est vrai qu'il dit sans arrêt ça. Il dit par exemple un genre, c'est quelque chose qui est reconnu par un lecteur. La question de la lecture très très au centre de ses propos. Qu'est-ce qu'un livre si nous ne l'ouvrons pas ? Un simple cube de papier et de cuir avec des feuilles. Mais si nous le lisons, il se passe quelque chose d'étrange. Je crois qu'il change à chaque fois. C'est ça le livre de sable aussi. Hein. Héraclite dit, je l'ai trop souvent répété, il le répète effectivement tout le temps, qu'on ne se baigne jamais deux fois dans le même fleuve, on ne se baigne jamais deux fois dans le même livre. Ça, je trouve très beau. Parce que ces eaux changent, mais le plus terrible, et que nous ne sommes pas moins fluides que le fleuve. Chaque fois que nous lisons un livre, le livre a changé. La connotation des mots est autre. En outre, les livres sont chargés de passé. Donc cette idée du livre qui lui-même est pris dans le temps à cause de l'acte de lecture d'un sujet qui coule avec le fleuve du temps, fait qu'on ne pourra jamais retrouver le même livre. C'est cette thèse-là, bien sûr, qui est celle du fameux livre du livre de sable. La dernière nouvelle du recueil Le Livre de Sable, c'est un livre dont les illustrations n'apparaissent qu'une fois et dont la pagination est complètement délirante. C'est un livre fantastique qui va être amené à ranger au fond de la bibliothèque pour ne plus y toucher parce qu'il est terrible et diabolique. Et c'est un livre littéralement de ce genre. On retrouve, il y a des illustrations qu'on trouve, chaque illustration n'est trouvée qu'une fois. C'est-à-dire la page que vous lisez, vous ne la relisez jamais. Vous feuilletez le livre, vous ne trouvez pas la page 291, elle a disparu. Elle n'est plus là, vous l'avez lu une seule fois dans Le Livre de Sable, et on pourra tomber que sur la page 3000 ou 3002, elles sont en plus en désordre. C'est une idée géniale, il y a beaucoup de temps à le comprendre, mais c'est en fait dans cette petite citation que je trouve la solution très claire. C'est-à-dire qu'on ne lit jamais deux fois la même page, donc littéralement la page 291 est introuvable si vous poussez l'idée au maximum dans la réflexion de Borges. Je trouve ça amusant du moins, et ça, avec la lecture au moins sous cet angle, du temps qui s'écoule. Alors, Borges dit, c'est la grande question philosophique en fait, la question du temps. Tout ça se trouve dans un recueil qui s'appelle Conférence, Borges Oral, une série de conférences. Il y a ces conférences sur le temps à Buenos Aires, prononcées à Buenos Aires en 1976, je crois, je ne sais plus très bien la date, dans les années 70, 78, voilà. Alors, que dit-il au juste à propos du temps ? Qui va nous ramener à l'instant vertigineux où le passé et le présent se confondirent, bien sûr, hein, vous invitez. Alors, la citation sur la plante qui pousse, on l'a déjà vue. Je continue donc rapidement. La citation suivante, c'est la 9. Ah oui, alors ça, il faut que je la contextualise parce qu'elle est un petit peu spéciale. Donc ça, c'est dans la nouvelle titre. C'est tiré de la nouvelle titre et la Cédor du recueil. Et c'est dans le texte dédicace. La dédicace est extraordinaire, c'est-à-dire que le narrateur du livre, dans la dédicace, porte son livre à Leopoldo Lugones, lui porte le livre de l'Acedor, le livre qui vient, mais il le porte à quelqu'un qui est mort. Et alors, il y a cette citation, 9, « À ce moment, mon rêve se dilue, comme l'eau dans l'eau, la vaste bibliothèque qui m'entoure se trouve dans la rue Mexico et non pas dans la rue Rodriguez Peña. » Et vous, Lugones, vous vous êtes tué au début de 1938. C'est effectivement le cas. Lugones s'est suicidé. Ma vanité et ma nostalgie ont construit une scène impossible. Assurément, me dis-je. Mais demain... Alors, donc, scène impossible du livre donné à celui qui n'est plus. Bon. Mais, avec Borges, ça ne s'arrête jamais là. Assurément, me dis-je. Mais demain, moi aussi, je serai mort. Nos durées seront confondues et la chronologie se perdra dans une orbe de symboles et d'une certaine façon, il sera juste d'affirmer que je vous ai apporté ce livre et que vous l'avez accepté. Donc à cet autre moment du temps, où le temps se ramassera à une échelle par exemple géologique, effectivement, à l'échelle géologique, il n'y a pas de problème, on peut très bien dire qu'il a porté le livre à Lugones, le temps a une toute autre dimension. Là, l'élément fantastique est extrêmement... je trouve pour ma part extrêmement intéressant. Regardez ce qui suit, il commente encore ça. Puis, s'éveillant un matin, c'est toujours dans le texte-titre El Hacedor, toujours la nouvelle, et là, regardez le détail de ce qui est dit, on va retrouver notre texte. Puis, s'éveillant un matin, il regarda déjà sans épouvante les choses confuses qui l'entouraient. Il comprit inexplicablement, comprendre inexplicablement, comme celui qui reconnaît une mélodie ou une voix. que tout cela lui était déjà arrivé et qu'il l'avait affronté avec crainte, mais aussi avec joie, espoir et curiosité. Alors il descendit dans sa mémoire, qui lui parut interminable, et il parvint à extraire de ce vertige le souvenir perdu qui brillait comme une pièce de monnaie sous la pluie. Sans doute parce qu'il ne l'avait jamais regardé, sauf peut-être dans un rêve. C'est dans ce vertige, extraire de ce vertige le souvenir perdu, c'est littéralement l'interrogation de la fin de notre texte. Hein. Sur ce vertige, extase, qu'est-ce qui se passe ? Moi, ce qui m'intéresse, c'est ce qui s'est passé au moment où il a retrouvé le petit couteau. C'est cette image de la pièce de monnaie qui brille sous la pluie, c'est exactement cette même mémoire qui va permettre de retrouver le petit couteau caché sous la hotte, ce moment où le souvenir tout à coup va émerger. Et les mots sont exactement les mêmes, c'est un vertige, un souvenir qui brillait comme une pièce de monnaie. Et ce qui est très intéressant, c'est cette mise en scène de la mémoire, c'est-à-dire qu'il faut descendre dans sa mémoire de façon qui lui parut interminable et extraire de ce vertige le souvenir perdu qui brillait. Donc, ce qui est, à mon avis, l'histoire d'El Cautivo. C'est exactement ce vertige-là qui est interrogé, ce qui fait que la relation entre notre petit texte et la nouvelle qui sert de thème-titre est une relation très puissante. Alors, j'ai trouvé une dernière chose qui est dans la citation numéro 11, cette fois dans la conférence sur le temps prononcée à Buenos Aires. C'est une allusion à saint Paul. Quand saint Paul dit « Je meurs chaque jour », ce n'est pas une image pathétique. Nous ne cessons de naître et de mourir. Pardon pour le maître, de naître et de mourir. Il reste toujours une faute dans un petit polycope, c'est incroyable. Nous ne cessons de naître et de mourir. C'est pourquoi le problème du temps nous touche plus que les autres problèmes métaphysiques. Car les autres problèmes sont abstraits. Le problème du temps est notre problème. Qui suis-je? Qui sommes-nous? Peut-être le saurons-nous un jour, peut-être que non. Mais entre-temps, comme dit saint Augustin, mon âme brûle car je désire le savoir. C'est vraiment ce « moi, je voudrais savoir ». Et moi, je voudrais savoir quoi? C'est « qui sommes-nous pris dans le temps ?» C'est littéralement ça. Qui sommes-nous, nous, pris dans le temps? Puisque cette histoire de l'Indien du début du deuxième paragraphe fait que, si on reprend le texte, les choses sont, me semble-t-il, très simples. C'est que le temps, la plante a poussé, l'enfant est devenu homme, est devenu indien, et le temps, le fleuve du temps ayant avancé, il ne peut pas revenir en arrière, il est devenu indien, et c'est l'indien qui est devenu captif. Dans le deuxième paragraphe, vous avez vu cet extraordinaire titre de la nouvelle, c'est là-dessus que je conclurai, puisqu'il est captif des indiens dans le premier paragraphe, il est délivré de sa captivité, mais délivré de sa captivité, il est captif des quatre murs, et il repart retrouver son désert. Le temps a passé et l'identité a tellement changé qu'il est littéralement l'Indien, un Indien aux yeux bleus, sans retour possible du temps, sauf dans ce moment de vertige. C'est-à-dire que le temps peut être annulé, mais d'une façon très particulière dans le vertige et dans l'extase. C'est-à-dire très précisément le moment où est annulé le mouvement héraclitéen du temps, et qui ne peut être qu'un vertige ou qu'une extase, et pas le déroulement inéluctable de la présence de l'homme dans le temps. Alors, je propose d'arrêter là-dessus pour qu'on ait un petit peu de temps pour discuter. Pour moi, si c'est du Borges, c'est parce que cette fable, littéralement, moi, m'aide à comprendre l'œuvre de Borges de façon indéniable, et m'aide, à mon sens, à comprendre le récit, m'aide à comprendre même les thèses de Ricoeur sur le récit d'une façon assez extraordinaire. En quelques mots, en quelques lignes, tout cela est parfaitement donné. Si dans la discussion on a un peu de temps, je commenterai la trame qui est encore plus courte et tout aussi extraordinaire.